Cours de philosophie première, la personne humaine, par le père Marie-Dominique Philippe, le 28 avril 1999, à Saint-Jodard.
Je lui demande de nous la lire.
Mais je la lis parce qu'elle est pleine d'abréviations, alors. Comment j'ai pas eu le temps. Outre l'aspect du travail, vu comme ce qui structure la dimension pratique de la personne humaine, peut-on voir dans le travail quelque chose de nécessaire et de propre en tant qu'il permet à l'homme de dire quelque chose que seul l'art peut dire? Le travail manuel n'est-il pas nécessaire à la personne humaine et au philosophe en raison de la relation entre la matière physique et le corps?
Tout à fait d'accord. C'est pour ça que c'est une dimension de la personne humaine. Si c'était facultatif, vous comprenez, ce ne serait pas une dimension de la personne humaine. Mais ce n'est pas facultatif. Alors, évidemment, là, au point de vue philosophique, on peut regarder les traditions religieuses. Pas qu'il faut transformer, qu'il faut comprendre, mais c'est quand même très important de voir pour nous que dans la grande tradition religieuse judéo-chrétienne, dans la Genèse, tout de suite, le travail est impliqué. Alors évidemment, ce travail serait différent. Il n'y aurait pas les erreurs qu'on commet aujourd'hui par rapport au travail. S'il n'y avait pas eu le péché originel, ça c'est bien évident. Ce serait beaucoup plus simple. Et le travail serait beaucoup mieux fait. C'est que je dirais, ce serait intéressant à voir pourquoi et comment, à cause de certaines conséquences du péché originel, le travail s'oriente toujours vers une sorte d'exaltation fausse de l'homme, de domination, alors que le travail devrait être pour l'épanouissement de la personne humaine. Je voyais hier à Saint-Jodard, à Arimont, quelqu'un qui est entièrement engagé. L'efficacité, c'est difficile de la savoir, dans ce fait de voir que nous sommes orientés actuellement par l'économie dans des pistes fausses qui tuent l'homme et qui risquent de le tuer complètement. Alors, il a été saisi par ça. C'est un homme de 45 et 50 ans. Et pour moi, je ne peux pas faire autrement que de crier attention, attention, attention. Qu'est-ce qu'on fait actuellement? C'est comme si les hommes étaient complètement aveugles. Et ils s'orientaient eux-mêmes, accélérer leur suicide. Et développer en eux ce qui n'est pas authentiquement humain. Ben, c'était impressionnant quand on écoute ça d'un théologien rectifié. On comprend. Mais d'un homme qui parle le travail, lui-même était très engagé. Et PDG a compris, non. C'est faux. On détruit l'homme. C'est assez impressionnant de voir cela. Alors il a entendu parler d'une philosophie réaliste. Il me dit, dans une philosophie réaliste, quelle est votre conception du travail? Mais la personne humaine. Et c'est très vrai. Le travail est fait pour le nécessaire, l'utilité, c'est bien évident. Mais le travail est fait aussi pour développer le travail, surtout avec l'art, pour développer quelque chose de propre de la personne humaine. Vous voyez, les deux grands développements de la connaissance pratique n'a pas eu le temps, hein, Il faudrait, après avoir vu la prudence et l'art, comprendre que l'un et l'autre développent en nous l'intelligence pratique, une certaine sagesse pratique, et que l'équilibre humain radical, c'est cet équilibre entre le facere et l'agere. Il y a un équilibre qu'on doit tout le temps remettre en cause. Et c'est très curieux qu'on retrouve quelque chose de très analogue dans tous nos chapitres. L'équilibre entre vie contemplative, vie active. Vie contemplative, vie apostolique. La vie contemplative, c'est l'adgérer de sagesse. C'est le sommet. La vie apostolique, elle implique un don de nous-mêmes dans une certaine activité. Et l'art intervient. Que vous enseignez, l'art intervient. Que vous prêchez, l'art intervient. Que vous ayez même une paroisse, l'art intervient pour ne pas tomber dans un ronronnement. On a toujours fait comme ça. On doit continuer de faire comme ça. Hein? Le vieux recteur breton, il n'existe plus, n'est-ce pas, alors, il est passé. Mais c'était ça. On a toujours fait comme ça. Pas toujours, il y avait dedans, quelquefois, des sages. Mais c'était l'habitude. Aujourd'hui, on est dans un temps tellement secoué que ça n'existe plus beaucoup, ça. Mais ça existe peut-être dans le fond refoulé, alors qu'il rejaillit de temps en temps avec d'autant plus de force. Mais c'est cet équilibre. Vous voyez, c'est l'équilibre le plus visible. La prudence et l'art, c'est les deux physionomies les plus visibles de la formation de la personne humaine. On le verra ensuite. C'est un caractère très spécial, le développement parfait de la prudence, le développement parfait de l'art. Et chaque homme doit avoir le sens, au moins, de ce développement-là. Et pour en avoir le sens, puisque comme c'est de l'ordre pratique, c'est pas de l'ordre spéculatif, c'est d'ordre pratique, on ne peut le connaître qu'en le faisant. L'homme prudent n'est prudent que quand il a fait des actes de prudence. Quand il fait une très belle théorie sur la prudence, 2 minutes après, il se casse la tête. Il n'est pas prudent. Et pour l'artiste, encore plus. Un artiste qui parle très bien. Je ne dis pas le philosophe, mais un artiste qui parle très bien et qui croit que c'est ça l'art. C'est l'art de la rhétorique, peut-être. Il y a un art. Il y a une rhétorique qui est grande, qui est belle. L'avocat. L'avocat peut être un métier merveilleux, puisqu'on dit que l'Esprit Saint, c'est l'avocat. Au plan spirituel. Alors, ça peut être proche du paraclet. Il y a des avocats qui sont merveilleux. Quand ils essaient de supprimer un mal, on comprend qu'à ce moment-là, il y a une certaine sagesse qui se développe, qui doit se développer. La sagesse à l'égard des petits et des pauvres. Et beaucoup, aujourd'hui, sentant justement ce déséquilibre humain de plus en plus fort entre ceux qui arrivent à percer et puis ceux qui sont par derrière, il y a un déséquilibre invraisemblable. Je voyais hier Alain Michel, qui est un homme très donné, très donné. Alors, il me disait, et j'ai fait répéter exprès, mais ça me semblait tellement énorme, que dans le monde d'aujourd'hui, il y a plus plus d'enfants qui n'ont pas suffisamment à manger que ceux auxquels il ne manque rien. Pas de nombre, c'est affolant, comme déséquilibre du monde. Parce que c'est toujours les enfants, c'est toujours dans l'extrémité. C'est, on a tous en tête, quand on a lu l'Écriture, ce passage très extraordinaire de l'Écriture à propos d'Israël qui pleure, qui crie au désert. Sa mère ne peut plus supporter le cri de l'enfant. Au moment où elle s'écarte, ne pouvant plus supporter le cri de l'enfant, Dieu entend le cri de l'enfant. Alors on se demande si actuellement les hommes n'entendent plus les cris des enfants. Et on ne voit pas un économiste pencher là-dessus en disant, parce que c'est très significatif, hein, le cri de l'enfant qui n'a pas de quoi manger, pas de quoi boire et qui meurt. Et je crois quelque chose de très spécial, très particulier, et qui fait partie. Alors, bien comprendre que le travail artisanal, le travail artistique, le travail développe en nous l'intelligence pratique, artistique. Et donc, développe quelque chose de notre intelligence qui est unique. L'esprit au terme de la gloire. L'esprit de la lumière. Oui, les qualités les plus profondes du monde physique sont mises en pleine lumière par l'art. Et donc, éduque l'homme. Permet à une civilisation qui se développe toujours avec le point de vue moral, le point de vue de la prudence et le point de vue de l'art, les deux grands facteurs du développement d'une civilisation, avec l'équilibre des deux. Et quand un l'emporte sur l'autre, il y a un déséquilibre. Et tout déséquilibre se reporte sur le développement de la personne humaine et tend vers une catastrophe. Or, c'est très net que dans notre monde, le point de vue de l'efficacité visible l'emporte sur le point de vue des intentions profondes, morales. Et ce qui explique ce déséquilibre, parce qu'il n'est pas au niveau du développement de la personne. Et c'est ça que nous essayons de comprendre au point de vue philosophique. Ce développement de la personne vu d'un point de vue métaphysique. Et puis après, le développement de la personne vu du point de vue sagesse. Ici, nous voyons d'abord au point de vue sagesse, c'est sûr, puisque c'est en vue de la sagesse. Donc c'est déjà la sagesse. Alors, nous avons vu l'autonomie, développement, la recherche de la vérité. Vous comprenez que dans la recherche de la vérité, il y a la vérité pratique, donnée par la prudence, donnée par l'art. Mais ça ne peut pas se développer par une application extrinsèque de la sagesse spéculative, de la contemplation. Ça se développe de l'intérieur par l'immanence. Ça se développe par une intelligence pratique, affective, prudentielle. L'expérience. La prudence se développe par l'expérience. On ne peut pas être des fruits très curieux, ça. On ne peut pas hâter les choses, quoi, du prudentiel. Ça se mûrit lentement. Et souvent, on n'a pas le temps de mûrir. C'est aussi une des caractéristiques de notre époque. Tout va trop vite, puisqu'on est au rythme de l'artificiel, du mécanique. On est au rythme de la machine. On est plus au rythme humain. Et donc, quelle est la partie prudentielle qui va le plus être endommagée? C'est la prudence. Nous allons vers un monde imprudent, d'une imprudence énorme. Et c'est ce qu'on est en train de dénoncer pour la guerre actuelle. On a été d'une imprudence folle. On ne savait pas ce qu'on faisait. Parce que, de fait, on touche certaines choses sans connaître. Vous voyez la réflexion d'un général qui est quelqu'un qui suit tout ça de très près. Il est à la retraite, évidemment, maintenant. Mais il disait, c'est fou l'imprudence des gens politiques actuels. Ils engagent peut-être le monde entier à partir d'une étincelle. Et c'est vrai, ça. On voit très bien. Et ça, ils ne sont pas entièrement coupables. Il y a des circonstances qui font que, de fait, notre monde devient un monde d'efficacité artistique. Je prends artistique dans le sens art, aussi bien mécanique, technique, et non plus prudentielle. Ce qui fait que la prudence ne peut plus se développer. Parce qu'on est dans un rythme qui est beaucoup trop accéléré pour que la prudence puisse mûrir. Alors vous voyez, c'est un peu comme les fruits qu'on est obligé de cueillir quand ils ne sont pas encore mûrs. Les fruits qui nous viennent d'Afrique, qui viennent d'Israël, on les cueille quand ils n'ont pas mûrs. C'est pas bon. Parce que si on les cueillait quand ils seraient mûrs, ils arriveraient gâtés. Alors comme ça, ils arrivent non mûrs. Je sais pas si c'est mieux qu'être gâté. Je sais pas. C'est comme ça. Et quand on retourne et qu'on voit encore des gens qui savent cultiver, non pas exploiter, mais cultiver. Parce qu'aujourd'hui, on exploite tout. Mais c'est extraordinaire ces fruits. D'où viennent-ils? Du jardin. Tiens, mais pas étonnant. C'est une des choses qu'on s'aperçoit le plus en religieuse. C'est net. Parce que justement, la prudence est au rythme d'une efficacité. Ce qui fait que la prudence ne peut plus dominer. Et il y a beaucoup à réfléchir là-dessus. Et ça, c'est l'expérience. Hein. Il faut réfléchir là-dessus philosophiquement, métaphysiquement. La recherche de la vérité. Et il se peut que la recherche de la vérité pratique, technique, artistique, soit tellement forte qu'elle soit un obstacle à une recherche de la vérité spéculative. Ça soit. Ça, c'est le sommet. Troisième dimension, l'amour d'amitié. Quatrième dimension, la prudence. Cinquième dimension. Vous voyez, je mets un certain ordre en disant ça. Parce que, au point de vue éducatif, c'est pas comme ça qu'il faudrait faire. Il faudrait faire presque l'inverse. La connaissance artistique aide à la connaissance prudentielle. La connaissance artistique prudentielle aide à l'amitié, sont nécessaires pour l'amitié. Et l'amitié aide à la recherche de la vérité. Et la recherche de la vérité vous donne l'autonomie. Vous voyez, vous avez l'ordre inverse. Presque toujours, c'est comme ça. situation qui doit être pensée. Joannick doit viser au primat de la sagesse et à la découverte de la sagesse. Sixième dimension, le corps. Mon corps fait partie de ma personne. Mon corps fait partie de mon être. Mon corps n'est pas seulement un avoir. Animaux et l'odeur des graisses, c'est un symbole extraordinaire. Le corps fait partie donc de la personne humaine. Comment ? Première affirmation. Simplement de mon âme. il suffit d'y mettre régulièrement une goutte d'huile pour que la machine ne grince pas. Mon corps fait partie. Mais l'aristotélisme a ceci de très beau, c'est qu'il a le réalisme qui va jusque-là. Et il serait intéressant ici de noter tous les systèmes philosophiques qui n'ont pas ce réalisme. Parce que je crois que quand on commence par le cogito, quand on commence par l'intelligo, on ne peut plus rejoindre le corps comme faisant partie de mon être. Bon, vous voyez, ce qu'il y a de très particulier dans mon corps, c'est qu'il y a une certaine connaissance affective, obscure et affective de l'intérieur de mon corps. Je me connais, je me sens. Je me sens euphorique, je me sens douloureux, je me sens éreinté, proche de la mort. Sachant pas si ça va arriver tout de suite. Vous voyez, et ça, cette expérience du corps, on l'a d'une manière très particulière dans l'amitié. Voyez, il y a ce fait que mon corps est vu par l'ami. Comment l'ami voit-il mon corps? Parce que je me vois moi tout le temps, moi-même. Je me regarde peut-être dans la glace, mais la glace c'est pas mon ami. La glace reflète. En gros ou en petit, ce que je suis. Mon ami, lui, me voit dans son amour. Alors c'est très différent. Et on a quelquefois besoin du regard de l'ami pour donner une certitude plus grande à la connaissance de notre corps. Et je crois, pour lutter contre cette désappropriation du corps, ce rejet du corps, le considérer uniquement comme un avoir, comme une force qu'on m'a mis sur le dos, c'est le cas de le dire, et qu'on me donne de porter, pour guérir ça, le regard de l'ami sur mon corps modifie cela. Et je crois que c'est la meilleure façon de le modifier. Je connaissais dans le temps un garçon de 14 ans qui tous les jours, pendant une heure, se regardait dans la glace en faisant des grimaces. Ça m'a fait beaucoup frappé, ça. Alors je lui ai demandé pourquoi tu fais ça. Ça ne va pas très bien. C'était instinctif. C'était maladif. Bonjour, il a presque avoué, légitimé l'horreur que j'ai de mon corps. Légitimer, rendre objectif, disons en termes philosophiques, légitimer ce sentiment instinctif, subjectif que j'ai mon corps. Alors, ce qui est dans le mal, on peut le faire dans le bien. Celui qui a un sentiment de rejet trop puissant vis-à-vis de son corps, comment le guérir? Par l'ami. Il lui donne un regard objectif, affectif, et qui peut l'aider. Bon, première affirmation. aucune idée. Ma conscience, tellement dans mon corps, que, en dehors de mon corps, je ne veux rien savoir. Cela existe aussi. Donc, vous voyez les deux extrêmes. Majorer le corps, ou l'annuler. Essayez de l'annuler. Essayez de me dégoûter. Et ceci existe très particulièrement pour le corps. Pour l'intelligence humaine, c'est rare qu'on ait du dégoût pour l'intelligence. C'est rare. Mais, et pour la volonté, encore moins. Tandis que pour le corps, ça existe. Parce que c'est moi, c'est mon être, c'est qu'une partie de mon être. Et c'est parce que c'est une partie de mon être que je dois préciser exactement le lien. Je disais, mon corps n'est pas un pur instrument, mais mon corps est un instrument. Voilà, un instrument conjoint que je ne peux pas quitter. Je ne le quitte qu'en rêve. Ces fameux rêves qui fait que je quitte mon corps et mon âme peut partir en voyage. Quand mon corps part avec moi, c'est une valise assez lourde, encombrante. Elle prend de la place. Mais je sais que c'est un instrument conjoint. Je ne peux pas m'en séparer. Parce que je ne peux pas m'en séparer ayant vis-à-vis de lui un regard bon, gentil. Il ne faut pas que la bête se révolte. Hein. Et donc, essayons de la respecter. Et il y a un respect naturel vis-à-vis du corps. Et le respect naturel vis-à-vis du corps, c'est de demander à toutes les parties du corps d'être ce qu'elles doivent être, selon leur finalité. Exalter une partie du corps au détriment des autres, c'est nécessairement me déséquilibrer. Je fais alors, dans l'exercice, je favorise certaines parties de mon corps. Et en les favorisant, je nuis aux autres. Étant donné que je suis limité quant à mon capital de vie. Mon âme informe mon corps. C'est l'âme qui informe mon corps. Si donc, je développe d'une manière excessive telle partie, tel organe de mon corps. À ce moment-là, je déséquilibre le reste. Le reste n'a plus l'attention que je devrais avoir. Et quand ça devient comme une sorte d'autre nature, l'habitude fait une autre nature. Ça peut déséquilibrer très profondément. Ce fait, là, je prends ça à titre d'exemple, ce fait que des enfants volés par des louves, qu'on les retrouve quelques années après, marchant à quatre pattes, c'est le cas de le dire, comme les autres loups. Il y a un livre qui a été fait là-dessus, évidemment, et fait avec des intentions qui sont peut-être pas toujours très droites, mais il y a des faits aboyants. Parlons pas, mais aboyants. Oh, c'était un être avec une âme humaine. Je peux pas perdre mon âme, mais mon corps est assez puissant pour l'inhiber et faire que mon âme par elle-même, quand elle est toujours en compagnie d'autres, on imite. L'imitation, c'est le premier moment de l'éducation. autrement dit la cause exemplaire, joue un rôle d'autant plus grand qu'on a affaire à des tout-petits qui n'ont pas beaucoup d'autonomie et qui sont relatifs. La cause exemplaire joue énormément. Alors quand vous avez comme cause exemplaire une louve, ça va pas très loin, au plafond. Vous restez comme la louve. C'est très curieux, mais c'est très important pour voir la puissance du corps. Il y a quelque chose de substantiel dans le corps. C'est pas un accident. C'est pas un avoir. C'est quelque chose de substantiel. Et parce que c'est quelque chose de substantiel, toujours, la substance est les principes d'autonomie. Alors, si autour de moi, je vois des animaux qui ont une souplesse dans leur corps que l'homme n'a pas toujours, c'est extraordinaire de voir ça. La souplesse d'un singe, d'avoir ça, c'est beau à voir. Et c'est terrible aussi, quand il prend une branche, il saute sur une branche, une espèce de danse aérienne extraordinaire, donc on n'a pas. Pourquoi ? L'âme, notre âme spirituelle, informe notre corps. Et parce qu'elle informe notre corps comme âme spirituelle, notre corps et surtout quand on est entouré d'une mère intelligente dans son amour, d'un père intelligent dans son amour, on a perpétuellement un au-delà. Et on vit avec un au-delà, ce qui est quelquefois dangereux. Alors les psychologues diront un surmoi, oui, si vous voulez, un au-delà, j'aime mieux dire ça. Parce que c'est normal. L'enfant est fait pour vivre avec ses parents. Il est fait pour vivre avec ses parents. Vous savez, l'exemple très, très simple qui a été fait en Palestine. À ce moment-là, j'y allais souvent, tous les ans, alors. Et le passage des deux était extrêmement curieux à voir. Parce que le gouvernement israélite a appliqué des principes de sociologue, des principes extrêmement forts et rigides du socialisme intégral. Alors, dans les kibbutz religieux, on retirait les enfants aux parents dès leur naissance. La mère. Il y avait des infirmières qualifiées pour être leur mère. Et tous les jours, on laissait l'enfant de 2 heures. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Ça, celui qui faisait le guide, ça m'intéressait beaucoup. C'est vieux ça, c'est au moment juste après la guerre. 7 jours. Je suis retourné 5 ans après. Ouais, je suis retourné la visite d'un kibbutz religieux. Parce que les kibbutz religieux étaient impeccables. Les autres, non. On faisait un mélange. Mais là, c'était du pur. Alors, c'était un Espagnol qui était comme guide. Bon, on avait le tour. Puis, pas un seul mot sur l'éducation. Alors à la fin, il dit, est-ce que vous avez des questions à poser ? Alors j'ai posé la question. J'ai dit, il y a 5 ans, je suis venu, et on m'a dit cela, j'aimerais savoir quels sont les fruits. Là, il a souri. Il dit, ah, vous posez la bonne question. On a vu que les enfants, quand ils quittaient leur mère, comme ça, élevés par des infirmières très dévouées, intelligentes, plus intelligentes qu'aimantes. N'est-ce pas ? Tandis que la Berthe est plus aimante qu'intelligente. Il y avait un retard pour l'éveil de l'intelligence et qui était très difficile à rattraper. Alors, comme ils étaient intelligents, eux, et qu'ils réfléchissaient beaucoup, on a changé. On laisse l'enfant maintenant à la mère. Pendant la première période, personne ne peut remplacer la mère. L'art ne peut pas remplacer la nature. Impossible. On devrait aller très loin là-dessus, parce que c'est très intéressant. Alors, on a laissé l'enfant à la mère. Mais, à partir de 13 ans, les petits Israélites sont avancés. À partir de 13 ans, ou 14 ans, mais plutôt 13 ans, et même 12 ans, il y a des rivalités qui commencent. La petite fille veut imiter, et elle est jalouse de sa mère, et le petit garçon est jaloux de son père. Alors, on les prend à ce moment-là, pour qu'il n'y ait pas un bouillon de culture, de jalousie. On les prend, les rois. Quand il a dit ça, je lui ai dit, dans 5 ans, je reviendrai. Là, il a éclaté de rire. Parce qu'il était espagnol, il avait quand même en lui une certaine tradition familiale. Vous comprenez ? Est-ce que la jalousie ne peut pas se détecter de la manière la plus parfaite dans un climat de famille ? Autrement, on va la guérir de l'extérieur et pas de l'intérieur. Et la jalousie, on le sait, c'est le ferment le plus fort au point de vue passion pour la division. C'est la jalousie qui divise. Et la jalousie est source de terribles passions. On peut tuer par jalousie. On arrive à tuer par jalousie. Presque tous. Et actuellement, c'est ce qui mène le monde. Il y a des jalousies, enfin, les jalousies politiques, les jalousies de domination. Si on ne les corrige pas, dès le point de départ, dans l'œuf. Or, la jalousie première, c'est normal, c'est la jalousie du. Et le père le sait très bien, c'est comme ça qu'il augmente son autorité. Et les pères deviennent insupportables pour que, soi-disant, tuer la jalousie. Alors c'est juste l'inverse qu'il faudrait faire. Et alors là, on voit comment le corps joue un rôle extraordinairement important dans le développement de la personne. Un rôle substantiel. N'oubliez pas, c'est pas premier, c'est second, mais c'est substantiel. Alors là, on est obligé, dans les catégories, d'assouplir, hein, parce que ce qui est substantiel est premier. Ah oui. Mais dans l'homme, il peut avoir un substantiel second, qui coopère, qui fait l'unité entre l'âme et le corps. Entre l'âme et le corps, il y a l'unité, mais il y a deux principes substantiels. Le corps n'est pas seulement source accidentelle. Il est un principe substantiel second. Et c'est pour ça que je crois qu'on peut dire que le corps, pour la personne humaine, c'est le conditionnement substantiel. Je mets deux mots et on essaiera de voir. Comment le corps est le conditionnement substantiel de la personne humaine.